bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 18 novembre 2022. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. Alors, j'espère que tout va bien pour vous, mais malheureusement, ça va pas bien pour tout le monde. Mais bon, je voulais prendre quelques minutes pour parler des mises à pied dans les grosses entreprises technologiques. Bon, on a entendu parler dans les dernières semaines, il y a Meta qui a mis à pied plein de monde, il y a Twitter, on l'a vu, hein, on l'a lu, mise à pied assez drastique de la moitié des employés. On va en parler tout à l'heure aussi, là, il y a eu des coupures au niveau des personnes, des consultants et consultantes, et Amazon qui a fait des annonces aussi. Et là, on pourrait dire, ah bon, écoute, ces compagnies-là, ils en ont profité pendant la pandémie, ils ont fait trop d'embauches, il y a des gens qui en ont profité, qui ont fait des sous, peu importe. Mais derrière ces coupures-là, ben, il faut penser qu'il y a des humains, des hommes et des femmes qui souvent prennent ça à cœur. Hein? Peut-être que c'est moins courant aujourd'hui, mais on se souvient, on disait, ah, on travaille, hey, je travaille pour telle compagnie, en tout cas, moi, j'ai cette compagnie-là tatouée sur le cœur et tout ça. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Mais peu importe, ces gens-là, et même s'ils ont été avertis à l'avance, ces gens-là ont perdu leur emploi. Et c'est jamais drôle. Je l'ai vécu, j'ai fait carrière quand même en informatique et je l'ai vécu. Et même si on le sait 6 mois à l'avance qu'il va y avoir des coupures, on dirait que c'est pire parce que là, on dit, OK, est-ce que je vais passer dans la moulinette? Est-ce que je ne vais pas passer dans la moulinette? Est-ce que j'ai le goût de passer dans la moulinette? Des fois, on se demande si ce n'est pas des tactiques pour qu'il y ait des gens qui quittent avant. De façon volontaire. Mais bon, j'ai une pensée quand même pour tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur emploi et aussi pour l'impact que ça peut avoir dans leur budget familial. Bref, je pense à eux. Alors, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Mastodon passe en version 4.0. Alors, adieu version 3.5.3 de Mastodon. Le réseau social décentralisé vient d'évoluer en version 4.0 pour tenter d'être toujours plus une alternative convaincante à Twitter. Si vous ne voyez pas encore les changements, les nouvelles fonctionnalités de la version 4.0 sur votre instance Mastodon, eh bien, c'est normal. En effet, chaque administrateur de serveur ou d'instance Mastodon peuvent décider de migrer ou non vers cette nouvelle version majeure. Il ne s'agit pas non plus d'une mise à jour de l'application mobile, mais bien de l'infrastructure derrière le service. On révélera tout d'abord la possibilité de suivre des hashtags, de traduire des posts, des publications et de choisir une langue pour l'affichage des tendances. Les différents systèmes de filtres gagnent également en richesse, de même que la composition de pouettes. Hein, parce que vous savez, sur Mastodon, les publications sont appelées des pouettes qui peuvent maintenant inclure des fichiers de nouveaux types, des fichiers WebB, des fichiers WAVE, des fichiers AVIF ou des fichiers HEIC, hein, qui sont des fichiers propriétaires pour les photos sur les plateformes Apple. Les publications peuvent aussi désormais être éditées depuis l'interface web et plus uniquement depuis l'application mobile. Bravo Mastodon, ça a pris des années à Twitter avant d'offrir cette fonctionnalité-là. Les règles d'un serveur sont à présent indiquées au moment de s'y inscrire. Et plus globalement, l'interface profite de nouvelles icônes et d'autres petits changements visuels. Alors aussi, les administrateurs apprécieront pour leur part la possibilité de définir pour les utilisateurs des rôles personnalisables, alors que jusqu'à présent, il n'en existait que 3. Hein, il y avait 3 rôles dans Mastodon, utilisateur, modérateur et admin. De quoi gagner en souplesse dans les droits octroyés. L'interface des administrateurs obtient également l'accès aux webhooks et à d'autres éléments. Alors, Mastodon est un réseau social alternatif disponible sous forme de services web et d'applications pour Android et iOS. Les utilisateurs peuvent suivre leurs proches, rejoindre des communautés et discuter avec des individus aux quatre coins du monde. Gratuit, pratique et respectueux des données personnelles, ce service web séduit des utilisateurs de plus en plus nombreux. Et les dernières statistiques que j'ai vues ce matin, je pense que ça tourne autour de 6 800 000 utilisateurs sur Mastodon. OneDrive. Les pièces jointes vont être intégrées au quota. Alors, à partir du mois de février 2023, Microsoft imposera des limites supplémentaires au volume de données que l'on peut stocker dans OneDrive. Selon un courriel envoyé aux utilisateurs d'Office 365, à partir du 1er février 2023, la firme commencera à compter les pièces jointes liées à chaque adresse Outlook.com dans le plafond de données. Cela signifie que si, jusqu'à présent, toutes les pièces jointes stockées dans la boîte de réception existante d'utilisateurs n'ont pas été comptabilisées comme des fichiers stockés, bien, ils le seront à partir du mois de février. Selon la firme de Redmond, cette mise à jour n'aura pas d'impact sur la capacité de stockage de la boîte roulette Outlook.com. Cependant, elle peut réduire la quantité de stockage cloud dont chacun dispose pour OneDrive. Si le quota de stockage est atteint dans le cloud, la capacité d'envoyer et à recevoir des emails dans Outlook.com sera perturbée. Outlook.com ne permet pas de joindre des fichiers de plus de 20 MB à un courriel, si bien qu'il y a peu de chances qu'une boîte mail contienne une tonne de pièces jointes et à attente d'être comptabilisée dans le quota. Autre changement qui mérite d'être signalé, c'est celui du rattachement d'adresses e-mail à un domaine personnalisé dans Outlook.com. Peu d'utilisateurs connaissent la fonction, ce qui explique probablement pourquoi Microsoft la supprime. Elle est pourtant très pratique, même si l'on utilise la même boîte de réception, le même mot de passe, les mêmes paramètres de compte et les mêmes contacts que le vrai compte de messagerie. Alors, elle permet de créer une adresse distincte pour préserver son anonymat. Moi, je l'utilise personnellement. Malheureusement, cette fonction sera supprimée dans un an, environ le 30 novembre 2023 exactement. Si vous avez déjà une adresse électronique personnalisée, elle continuera de fonctionner après le 30 novembre 2023. Le changement n'affecte que la possibilité d'associer de nouvelles adresses électroniques personnalisées. En revanche, si vous supprimez une adresse électronique personnalisée existante après la date butoir, eh bien, vous ne pourrez plus la réinsérer. Facebook demeure la plateforme préférée des Canadiens. Cet été, l'entreprise subissait une baisse de revenus pour la première fois de son histoire. Et mercredi, elle annonçait un licenciement record, et oui, de 11 000 employés. Mais selon une récente étude de l'agence de marketing numérique RESAC et de la firme de sondage Léger, cela n'a pas empêché Facebook de demeurer la plateforme sociale la plus utilisée au pays. Alors au Canada, 83 % des internautes ont un compte Facebook, comparativement à 77 % pour Messenger ou à 57 % pour Instagram, ces deux plateformes étant aussi des filiales de Meta. En outre, 63 % des internautes canadiens ont également un compte YouTube, 37 % pour Twitter et 27 % pour TikTok. Plus populaire en Amérique latine, en Europe et en Afrique, la plateforme de messagerie WhatsApp, qui appartient aussi à Meta, n'est utilisé que par 39 % des internautes canadiens, toujours selon la même étude. La popularité indéniable de Facebook au Québec s'amenuise toutefois auprès des jeunes. Parmi les internautes qui possèdent un compte Facebook, 73 % des 35 à 55 ans utilisent quotidiennement la plateforme, comparativement à 56 % chez les 16 à 24 ans. Par ailleurs, 91 % des internautes de 16 à 24 ans ont un compte YouTube, 85 % ont un compte Instagram, mais seulement 79 % ont un compte Facebook. Alors, le Québec aime Facebook en raison de la bulle linguistique qu'on y crée quand on utilise la plateforme, explique Nadia Serayoko. À partir du moment où vous inscrivez sur Facebook en français et que vous êtes géolocalisé au Québec, vous voyez principalement du contenu francophone d'ici, contrairement à Twitter, par exemple, qui ne fait pas de distinction linguistique ou géographique. TikTok, moins populaire que prévu, TikTok est sur toutes les lèvres en ce moment, mais ne détrône pas les plateformes plus classiques tant au Québec qu'au Canada. Madame Serayoko n'est pas plus convaincue pour le moment du potentiel de TikTok. Je la cite, on parle de plus en plus des effets nocifs de TikTok. Le fait que ce soit une plateforme chinoise leur met une barrière. Alors de leur côté aussi, les revenus baissent. Plus besoin d'un Mac vos photos iPhone arrivent sur Windows 11. Alors, lors de la présentation des nouveaux produits Surface, Microsoft faisait une annonce majeure à l'attention des utilisateurs Apple. La firme a décidé de mieux prendre en charge les services de son meilleur ennemi et elle ne fait pas les choses à moitié. L'éditeur a annoncé l'arrivée des applications Apple TV et Apple Music sur Windows ainsi que l'intégration des photos iCloud dans son système d'exploitation. Alors, je cite Microsoft, « Nous savons que de nombreux utilisateurs de Windows ont des collections de photos et de vidéos sur leur iPhone qu'ils aimeraient pouvoir visualiser sur leur PC. L'intégration d'iCloud Photo permettra à ceux qui possèdent un iPhone d'avoir un accès direct à tous leurs précieux souvenirs dans un endroit organisé. Alors cela constitue une nouvelle étape dans nos efforts continus pour rendre l'utilisation de Windows 11 transparente. Alors, l'application photo de Windows 11 reçoit actuellement une mise à jour pour intégrer ses photos et vidéos d'iCloud. Les utilisateurs du dernier système d'exploitation devront mettre à jour leurs applications depuis le Microsoft Store, puis installer l'application iCloud pour Windows. Le téléchargement s'effectue toujours via le Store. Une fois installé, il suffit de se connecter et de choisir les photos ou bibliothèques qui se synchroniseront automatiquement avec Photos. En fonction de la quantité d'images et de vidéos stockées sur le cloud, iCloud, et selon la vitesse de votre connexion, les chargements dans l'application peuvent prendre du temps. Une fois importées, elles s'afficheront au même niveau que les photos stockées sur OneDrive. Alors, l'intégration d'iCloud Photo dans Windows 11 intervient alors que Microsoft a récemment déployé la mise à jour 2022 de son système. Alors, jusqu'à présent, les photos iCloud étaient accessibles via un dossier créé par l'outil d'Apple. Alors, c'était une intégration limitée et très peu pratique, loin des nouvelles ambitions de Microsoft. Rappelons que le déploiement d'Apple TV et Apple Music est prévu pour l'année prochaine sur Windows. Ils prendront la place du vieillissant iTunes. L'action d'Amazon a perdu 1000 milliards de dollars en bourse. Alors, les grandes entreprises du secteur des technologies et du numérique ont profité de la crise sanitaire pour multiplier les clients qui, confinés chez eux à télétravailler, n'avaient pas d'autre choix que de faire appel à leurs services. Mais la sortie de la pandémie n'est pas de tout repos, alors que la situation revient peu à peu à la normale, et cela se voit non seulement dans les résultats de ces multinationales, mais aussi dans leurs cours en bourse. Amazon, qui a été un des premiers groupes cotés à rejoindre le club des valorisations dépassant les 1000 milliards de dollars, eh bien déchante aujourd'hui. Le 21 juin, la valorisation boursière du commerçant en ligne était de 1882 milliards de dollars. Eh bien, jeudi dernier, elle était descendue à seulement 878 milliards, soit plus de 1000 milliards de moins en quelques mois. Et Microsoft aussi, qui est l'éditeur de Windows et d'Office, qui a cédé plus de 900 milliards. Ce mouvement n'est pas limité à Amazon et à Microsoft. En fait, le top 5 des entreprises technologiques américaines a perdu 4 000 milliards de dollars à Wall Street cette année. Pour donner une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de combiné de la Turquie, de l'Argentine et de la Suisse. D'ailleurs, Microsoft a annoncé cette semaine qu'il licencierait pas moins de 10 000 employés. Meta arrête les écrans Portal et son projet de montre connectée. Alors, l'annonce d'un plan social d'envergure qui va conduire à la suppression de 11 000 emplois, on a parlé, a des conséquences directes sur la stratégie de Facebook. Avec 13 % de ses effectifs en moins, Meta a décidé de revoir ses ambitions matérielles en abandonnant certains projets. Sur son site dédié aux appareils Portal, alors Meta s'explique, je les cite, « Nous procéderons à des changements afin de mieux servir la clientèle professionnelle et continuerons de vendre les appareils Meta Portal uniquement jusqu'au 31 décembre 2022 ou jusqu'à épuisement des stocks. » Elle ajoute aussi « Les expériences et applications disponibles peuvent être amenées à évoluer. » Les propriétaires d'appareils Portal peuvent d'ailleurs s'attendre à connaître certains changements. Je cite Meta, « Nous continuerons de prendre en charge les nombreuses expériences déjà proposées sur les appareils Meta Portal. Nous pourrons modifier le contenu et les fonctionnalités », indique la compagnie. Proposé à 49 €, les Portal 10 pouces ou Portal TV ne sont donc peut-être pas les meilleurs bons plans pour le moment. Meta a aussi décidé de mettre fin à son projet de montre connectée. Évoqué depuis des mois, le développement des montres connectées de Meta connaissait des difficultés. Le projet battait de l'aile. Il était proche d'être abandonné dernièrement. La société mère de Facebook a finalement attendu l'annonce de son premier plan social pour confirmer son arrêt. Cette montre intelligente était connue sous le nom de code Milan. Une décision qui ne risque pas d'aider Meta à faire décoller le métavers imaginé par Mark Zuckerberg. En effet, les technologies portables, comme une montre connectée, sont une porte d'accès vers ce monde virtuel. Reste à l'idée de développer des lunettes connectées, un programme qui semble toujours d'actualité chez Meta. Comment remplacer votre routeur Wi-Fi sans déconnecter tous vos appareils? Alors, si vous avez plusieurs appareils connectés chez vous et vous redoutez peut-être l'idée de devoir mettre à jour manuellement chacun des appareils vers un nouveau réseau, si vous changez votre routeur, mais il y a un moyen très simple pour faire et que je ne connaissais pas. Alors, c'est un peu une découverte. Voici comment changer votre routeur Wi-Fi sans avoir à mettre à jour manuellement chacun des appareils. Alors, c'est pas compliqué. Il faut conserver le même SSID et le même mot de passe réseau. Alors, assurez-vous, si vous avez déjà votre routeur, allez chercher votre identifiant qui est le SSID, votre identifiant, votre nom de réseau. Alors, vous allez ensuite configurer votre nouveau routeur en suivant, bien sûr, les instructions du fabricant. Mais lorsque vous arrivez à l'étape où vous devez créer un nom de réseau et un mot de passe, alors simple, utilisez exactement le même nom, SSID, et le même mot de passe que votre ancien réseau. Ensuite, débranchez votre ancien routeur et tous vos appareils devraient maintenant se reconnecter automatiquement à votre nouveau routeur en utilisant le même nom de réseau, le même mot de passe. Et assurez-vous que vos appareils fonctionnent correctement. Et voilà, c'est terminé. Je trouve ça magique. Je ne connaissais pas ce truc, mais je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais testé, mais c'est certain que la prochaine fois que je vais changer mon routeur, je vais certainement tester cette méthode géniale.
Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
Tanné d'être traqué, un milliardaire vend son jet. Alors, l'hostilité croissante envers les jets privés a récemment poussé l'un des hommes les plus riches du monde à vendre son avion bombardier. Le grand patron de la multinationale québécoise assure toutefois qu'il n'est pas inquiet. En juin 2020, un jeune Américain, Jack Sweeney, alors âgé de 18 ans, a ouvert un compte Twitter qui diffuse en temps réel les vols du jet privé d'Elon Musk, le PDG de Tesla, de SpaceX et de Twitter. Alors, l'intérêt pour le compte Elon Jet a vite grandi, si bien qu'à l'automne 2021, M. Musk a offert 5 000 $ US à M. Sweeney pour l'inciter à le fermer, mais en vain. Musk est mécontent parce qu'il dit « Je suis pas fou à l'idée de me faire abattre par un taré. » qui a écrit dans un message privé à Jack Sweeney. Alors, dimanche, Elon Musk a assuré qu'il n'allait pas se servir de son nouveau statut comme propriétaire de Twitter pour supprimer Elon Jet. C'est très gentil, M. Musk. « Mon engagement à l'égard de la liberté d'expression va jusqu'à m'empêcher de bannir le compte qui suit mon avion, même s'il s'agit d'un risque direct à ma sécurité personnelle », a-t-il tweeté. Mais au cours des derniers mois, M. Sweeney a créé plusieurs autres comptes Twitter automatisés pour suivre les jets privés de célébrités comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Taylor Swift et Donald Trump. Suswini, elle dit « J'aime partager de l'information avec les gens, que ce soit pour des raisons climatiques ou simplement pour leur permettre de suivre les personnalités auxquelles ils s'intéressent. » En France, des internautes se sont inspirés de M. Sweeney pour créer des comptes qui suivent les jets privés de milliardaires du pays, dont celui de Bernard Arnault. À la tête du groupe de luxe LVMH, ce dernier est la deuxième personne la plus riche du monde, derrière Elon Musk. Alors, M. Arnault n'y a pas du tout apprécié cette attention, si bien qu'il s'est récemment départi de son avion, un Global 7500 de Bombardier. Alors, je le cite, avec toutes ces histoires, le groupe avait un avion, on l'a vendu. Le résultat maintenant, c'est que plus personne ne peut savoir où je vais puisque je loue des avions, a lancé l'entrepreneur le mois dernier sur les ondes de la station française Radio Classique. Et là, M. Sweeney a dit « Ben, je ne m'attendais pas à ça. » Il était surpris. Il y a aussi Éric Martel, le PDG de Bombardier, qui a assuré que le coup d'éclat de Bernard Arnault est pour l'instant isolé. « C'est un choix personnel », a-t-il déclaré la semaine dernière. « Je vois pas ça comme... je vois pas ça beaucoup présentement. » Bref, chez Greenpeace, on souligne que l'ampleur de la crise climatique actuelle devrait mener à l'interdiction pure et simple de vol en jet privé. Les prochaines actualités, ça va être une rafale. Hein? Ça va être une rafale d'actualités. Ça va être un petit peu décousu, un peu à l'image de M. Elon Musk. Hein? Il est un petit peu décousu, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. On va commencer par... il y a deux salariés. J'ai vu effectivement les tweets officiels de ces salariés-là qui ont interagi avec M. Musk, lui, qui n'aime pas être moqué. Bien, il y a deux employés du réseau social qui ont également pu découvrir qu'un milliardaire n'aimait pas non plus être corrigé en public. Après avoir repris leur patron dans le cadre d'un débat autour du fonctionnement de Twitter, Eric Fronefer et Ben Leib auraient en effet été licenciés de l'entreprise. Les remarques des deux ingénieurs répondaient aux affirmations d'Elon Musk qui s'excusait des faibles performance de l'application Android de Twitter en Inde ces derniers jours. Pour eux, les raisons invoquées par le milliardaire pour justifier ses difficultés techniques sont infondées. C'est d'abord Eric Fronefer, je m'excuse à Eric si je prononce mal son nom, qui aurait travaillé pendant 6 ans sur la version d'Android de Twitter, qui a corrigé M. Musk. Les propos ont ensuite été confirmés par Ben Leib, qui se décrit comme l'ancien responsable technique de l'infrastructure des timelines chez Twitter. Oh, un grand titre. Dans un tweet, il a par conséquent affirmé qu'Elon Musk n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors, le débat s'est ensuite poursuivi entre le patron et ses deux employés. Pour certains développeurs, les deux ingénieurs auraient dû informer leur patron en privé. En réponse, Eric Fronefer a déploré qu'Elon Musk n'a pas pris l'initiative de poser ses questions à l'interne. Donc, finalement, un utilisateur de Twitter a demandé à Elon Musk s'il souhaitait réellement travailler avec des employés qui avaient ce genre d'attitude. Et c'est à ce moment, et j'ai vu le tweet, que le patron de Twitter a annoncé qu'Eric Fronefer avait été viré. Il a depuis supprimé son tweet. Ben Leib a également annoncé avoir été licencié. Hein? Quelle saga! Hein? Elon Musk aussi reporte le lancement du nouvel abonnement controversé de Twitter, le fameux Twitter Blue, avec les badges de certification pour les utilisateurs. Alors, il a annoncé qu'après 10 jours, il y a eu des controverses multiples, là, des faux comptes qui ont été créés. Ça fait perdre quand même des milliards à des entreprises. Alors, lui, il a décidé qu'il va relancer ça, le Blue Verified, le 29 novembre, pour être sûr que cette méthode-là soit béton. Hein? Pour s'assurer que ces personnes-là ne pourront pas utiliser des comptes parodiques et pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, il a enlevé Twitter Blue pendant quelques semaines. Ça ne sera plus disponible. Mais dans le système qui sera lancé le 29 novembre, eh bien, je cite, « Tout changement de nom, hein, quand on va changer le nom de notre compte, va causer la perte de la coche bleue, hein, de la badge de certification, jusqu'à ce que le nom soit revérifié par Twitter. C'est ce que M. Musk a promis mardi. Mais il y a une chose aussi qui est quand même à noter. Il a aussi précisé dans cet article-là que les personnes qui ne s'abonneraient pas à Twitter Blue, okay, qui donne la possibilité d'avoir le fameux batch, ben, ils vont perdre la coche, okay, la batch, si elles l'avaient obtenue gratuitement dans le passé. S'ils ne s'abonnent pas, les gens qui sont déjà certifiés vont perdre la coche bleue. Je pense que ça va faire beaucoup de mécontents. Il s'est passé aussi quelque chose. Il dort dans les locaux de Twitter. Puis ça embête les gens de Tesla. Parce que là, ça bouge. Il y a beaucoup de remous. Hein, il a vendu des actions de Tesla aussi pour être capable de réinvestir des fonds dans Twitter. On va aller voir l'article. Quant au fait que l'entrepreneur ait choisi de passer la nuit dans les locaux de l'entreprise, c'est pas non plus si surprenant parce que Elon a en effet déjà dormi dans les locaux de Tesla par le passé. Pour lui, c'est une forme d'exemple qui vient du haut, hein, qui vient du plus haut de la compagnie et qui est censé entraîner l'ensemble de ses salariés. Donc, aussi en se prononçant en faveur du retour au travail sur site chez Tesla, le dirigeant avait d'ailleurs expliqué « Plus vous êtes haut placé, plus votre présence doit être visible. C'est la raison pour laquelle j'ai tant vécu dans l'usine, pour que les ouvriers puissent me voir travailler à leur côté. Si je n'avais pas fait cela, Tesla aurait fait faillite depuis longtemps. » Et M. Musk a même aussi évoqué la possibilité de faire faillite avec Twitter, hein, de faire faillite. Donc, il y a eu une réunion à l'interne qui a été organisée par Elon Musk pour faire le point sur la situation délicate de Twitter. Il a réitéré que le télétravail n'est plus autorisé. Terminaté. Hein? C'est fini. Le milliardaire américain a toujours été contre le travail à distance qui n'est plus acceptable chez Tesla depuis quelques mois. Si vous pouvez vous rendre physiquement au bureau et que vous ne vous présentez pas, votre démission est acceptée. Alors, les employés ne s'y attendaient pas du tout, mais il a fait ça dans un espace, un Twitter Space, que j'ai écouté aussi. Les employés ont été très surpris d'entendre ça. Mais Elon Musk a évoqué la possibilité d'une faillite. Alors, selon lui, la situation économique à venir est désastreuse. Twitter cumule maintenant plus de 10 milliards de dollars de dettes. Je pense qu'elle perd 4 millions par jour. La société risque d'avoir du mal à les rembourser avec des taux d'intérêt élevés et la fuite des annonceurs. On rappelle que le contenu publicitaire est le revenu principal de Twitter. Par conséquent, une faillite permettrait à Elon de réduire l'endettement de la plateforme. Mais en contrepartie, il perdrait une part importante dans l'entreprise, mais il en aurait toujours le contrôle. Oh là là! Et la dernière chose de notre cher Elon, hein, le cher Elon cette semaine, c'est que là, il y a un ultimatum, hein, qui a été lancé et ça termine aujourd'hui, je crois. Alors lui, il dit, je le cite, « Faut travailler à fond ou partir. Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante », a écrit le nouveau patron du réseau social dans un courrier interne. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire pour M. Musk travailler de cette façon-là? Cela signifie de travailler de longues heures à haute intensité. Hein? Haute intensité. Le dirigeant a invité les employés à adhérer à son approche en cliquant sur une case « oui » et expliquer que s'ils ne le faisaient pas avant jeudi, 17h, heure de New York, heure de Montréal, ils quitteraient Twitter avec une indemnité correspondante à 3 mois de salaire. Je trouve que c'est un ton quand même menaçant. Mais une telle méthode détonne même aux États-Unis où le droit du travail est moins protecteur des salariés que dans beaucoup de pays occidentaux. Alors, c'est toujours des péripéties de ce temps-ci. À chaque jour, il y a des choses qui se passent avec M. Musk. Est-ce qu'il est en train de perdre le contrôle? Est-ce que beaucoup de gens se demandent, bon, c'est un gars qui est quand même intelligent, est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Puis au bout de la ligne, ça va porter fruit. Mais disons que disons qu'il y a peut-être qu'il y a un plan dans sa tête, mais c'est peut-être la façon d'y arriver que je trouve un petit peu drastique. Mais bon, c'est mon opinion. On va voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer avec Twitter. Et j'ai bien hâte d'avoir aussi qu'est-ce qui va se passer avec le fameux projet Blue Sky de M. Dorsey, hein, qui est l'ancien PDG de Twitter, qui va partir un nouveau protocole, et non une application, mais il va avoir une application, mais un nouveau protocole fédéré, un petit peu à la Mastodon. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Alors, merci Elon. Merci. Thanks Elon. Hein? Tu nous mets plein d'actualités technologiques sur un plateau cette semaine. Une intelligence artificielle qui va changer notre manière de travailler. L'intelligence artificielle est désormais déclinée à toutes les sauces, depuis la création d'images jusqu'à la rédaction de contenu textuel. Eh bien, c'est justement sur ce créneau que Notion, l'outil multifonction dédié à la prise de notes, entend changer nos habitudes. Ce mercredi 16 novembre, l'application a officialisé le développement de Notion AI, un outil révolutionnaire capable d'écrire des mails, des articles ou encore de brainstormer à votre place, le tout grâce à l'intelligence artificielle. Le programme est actuellement en version bêta et réservé aux équipes internes. Une liste d'attente est toutefois accessible pour les plus impatients. Et un petit groupe de journalistes américains a déjà eu l'occasion de tester l'IA de Notion en direct. Le logiciel comporte encore plusieurs erreurs, mais reste particulièrement intéressant. Alors, Notion, c'est quoi? C'est un véritable couteau suisse multimédia. Notion s'impose depuis déjà plusieurs mois comme l'un des logiciels les plus prometteurs du moment. C'est entre Excel, Word et le bloc-notes. L'outil est encore largement perfectible, mais il ne cesse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Récemment, ce sont les templates récurrents qui ont fait leur apparition. Cette fois, l'entreprise américaine passe un nouveau cap en permettant de gagner un précieux temps de rédaction. Le champ de possibilités est énorme, puisqu'il permettrait de rédiger un courriel professionnel, une liste d'avantages et d'inconvénients, et même d'écrire un article de blog. Grâce à ces outils de rédaction prédictive et un thème donné, Notion AI va ensuite puiser sur le web pour obtenir des informations précises, puis les mettre en forme. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée sur les dessous de l'algorithme utilisé, mais l'arrivée est prévue pour l'année prochaine, promet le CEO de l'entreprise. Pour le moment, l'outil manque encore d'entraînement, mais devrait rapidement trouver son rythme de croisière à mesure qu'il est utilisé par quelques 20 millions d'utilisateurs et utilisatrices. Pour rejoindre la liste d'attente de Notion AI, il suffit d'avoir un compte et de s'inscrire via un lien, que je vais mettre dans la documentation de l'épisode. Pour le moment, près de 100 000 personnes sont déjà inscrites. Il faudra donc sans doute attendre quelques mois pour découvrir les nouveautés offertes par le logiciel. En attendant, l'outil s'impose déjà comme la plateforme de référence pour les entrepreneurs. The Walking Dead cherche des zombies en France. Eh bien, la France va être envahie de zombies à l'occasion du tournage du nouveau spin-off de The Walking Dead. L'univers de Walking Dead va s'agrandir. Alors que la série originale touche à sa fin, l'adaptation des comics de Robert Kirkman s'apprête à revenir sur nos écrans. Forte d'une popularité mondiale, la licence développe une production dérivée sur l'un des personnages iconiques. C'est Daryl qui sera à l'honneur. Alors, dans cette nouvelle série, le protagoniste incarné par Norman Reedus fera un petit détour par la France. Alors, pour plus de réalisme, les équipes ont donc pris la direction de la France. Elles tournent en région parisienne et sont actuellement à la recherche de figurants. Alors, selon l'entreprise CastProd, AMC veut recruter des villageois pour le spin-off de Walking Dead. Le tournage est prévu pour le 14 décembre prochain et des essayages costumes sont à prévoir les 8 et 9 décembre prochains à Pantin. Les personnes sélectionnées devront se rendre à Auvers-Saint-Georges dans le 91 lors des prises de vue. La rémunération syndicale correspondant à celle pratiquée pour la télévision, à savoir 80,58 € brut par jour. Alors, avez-vous le profil? La production recherche des figurants pour jouer des villageois dans un environnement inspiré des années 60. Ces personnes devront avoir entre 20 et 50 ans et peuvent avoir des physiques atypiques. Des figurants pour jouer des ecclésiastiques sont aussi recrutés. Ils doivent être âgés de 25 ans minimum et de 65 ans maximum. Ah ben, pour participer au casting, il suffit d'envoyer deux selfies ainsi que vos coordonnées à l'adresse mail indiquée sur le site qui est castprod.com, castprod.com. Il faudra joindre à votre participation votre taille ainsi que votre poids. La direction de casting précise qu'elle ne contactera que les profils retenus. Alors, vous pouvez tenter votre chance et espérer vous apercevoir en arrière-plan dans la série au moment de sa sortie. Pour rappel, The Walking Dead, c'est une série qui a été développée par AMC aux États-Unis. C'est OCS qui a les droits de diffusion en France, ainsi que ceux du premier spin-off Fear of the Walking Dead. Vous pouvez ainsi voir ou revoir les deux productions sur la plateforme détenue par Orange. L'épisode final sera disponible dès le 21 novembre 2022 sur OCS. Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir ses adieux aux personnages. Un score de quotient intellectuel très élevé pour un jeune de 11 ans d'Angleterre. Un jeune Britannique d'à peine 11 ans a explosé les records de QI avec un score de 162, soit le QI maximum pour les moins de 18 ans. Avec un score pareil, il bat les deux plus grands génies du siècle passé, Albert Einstein et Stephen Hawking. Si l'on connaît le score de Stephen Hawking, 160, Einstein n'avait pas passé de test de QI, mais des experts l'estiment à environ 160 également. Youssouf Shah, jeune étudiant de Leeds, au nord de l'Angleterre, souhaiterait étudier plus tard les mathématiques à Cambridge ou à Oxford. Il a déjà reçu une invitation à rejoindre Mensa, le club des gens les plus intelligents de la planète. Alors, je le cite, « J'ai toujours voulu savoir si je faisais partie des deux premiers pourcents des personnes qui réussissent le test. C'est un sentiment spécial d'avoir un certificat à mon nom », a-t-il déclaré. Sa famille est ravie de la situation. Sa mère Sana a d'ailleurs déclaré, je la cite, « J'étais si fière. Il est la première personne de la famille à passer le test Mensa. En fait, j'étais aussi un peu inquiète. Il est toujours allé dans une salle remplie d'enfants pour passer des tests. Nous pensions qu'il pourrait être intimidé par les adultes du centre. Mais il s'en est sorti brillamment. Je lui dis toujours, ton père est toujours plus intelligent que toi. Même si tu as du talent, tu dois être le plus grand travailleur. » Et son petit frère, âgé de 8 ans, attend avec impatience de passer le test à son tour. Y aura-t-il deux génies dans la famille? Et si votre prochaine montre intelligente était à base de champignons? Une récente découverte d'un groupe de chercheurs à l'université Johannes Kepler à Linz, en Autriche, pourrait permettre à l'industrie de créer des circuits électroniques plus écolos. Ceux-ci ont découvert un nouveau matériau extrait d'un champignon qui pourrait servir à créer des composants électroniques. Selon les explications de l'université, la découverte a été faite presque par hasard. Un champignon, en particulier le Ganoderme luisant ou le Ganoderma lucidum, forme une peau en mycélium à la surface afin de se protéger des agents pathogènes et des autres champignons. Cette peau peut être retirée et traitée pour obtenir un matériau résistant à une chaleur dépassant les 250 degrés Celsius. Celui-ci est aussi assez robuste et est très flexible. En soudant des puces électroniques relativement conventionnelles sur la peau de champignons, les chercheurs ont réussi à créer un capteur de proximité ainsi qu'un capteur d'humidité qui fonctionne correctement. Les chercheurs veulent également utiliser ces matériaux pour les batteries. L'intérêt de ce matériau est qu'il est biodégradable, ce qui pourrait réduire l'impact de nos appareils sur la planète, mais aussi faciliter le recyclage. En effet, lorsque le mycélium se dégrade, il devient plus facile de séparer et de recycler les autres éléments du circuit électronique. L'article a été publié sur le journal Science Advances. D'après celui-ci, en matière de flexibilité, le matériau peut résister à plus de 2000 cycles de flexion et peuvent être pliés plusieurs fois sans trop affecter les propriétés électroniques. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et oui, cher auditeur, chère auditrice, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais ne soyez pas triste, hein? Ne pleurez pas. Car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!